On va se mélanger ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question d'ingestion, de pain azim, de sexy sushi, de Sinatra, de jazz, d'improvisation et même de Pierre et le Loup avec Boris Charmatz qui signe Manger, pièce chorégraphique pour 14 danseurs tous occupés à manger, danser, chanter. Manu Farine.
14 danseurs à table, donc, ou comment l'acte de manger fait digestion du réel, contrainte et donc chorégraphie.
19h30, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine avec ce soir le créateur lumière Éric Houllier. 19h35, le plateau sera jazz avec le trompettiste David Enco pour son album Lawyers. Et comme son nom l'indique, la composition joue sur les couches pour un jazz afin de lutter contre les stéréotypes d'un jazz figé. Lucille Comeau.
Lawyers, parce que lawyers, ça veut dire avocat.
Exactement,
en fait.
Vous savez que moi. Et ça fait rire, Zoé Sfez. On va voir tout à l'heure, Zoé, comment vous allez vous débrouiller. Parce que la dernière fois, c'était pas fameux non plus, les noms propres. Hein. Parfait.
Portrait d'un musicien qui travaille en quartet, quatre lignes à voix égales, dans un constant souci de la mélodie.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle. Tiens, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre bien sûr sur le son du jour.
Anne Barjot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale du festival Paris Cinéma qui ouvre demain.
Demain,
et c'est
tout à
finalement
fait.
Et jusqu'au 12 juillet. Ce festival, ça fait quelques années qu'il existe.
D'habitude, c'est la 12e édition.
Voilà, 12e édition. D'habitude, focus sur un pays, sur une région.
Oui.
Et là, focus sur Paris.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, il est pourri.
Il est
c'est vrai.
Il date de juillet dernier. Ce n'est pas de ma faute, c'était un son de télévision. À ce moment-là, Agnès Barjot, donc la secrétaire générale du festival Paris Cinéma, est invitée à la télévision. Elle vient présenter dans les médias la 12e édition du festival. Un festival qui marchait de mieux en mieux, puisque en juillet dernier, cette édition-là avait gagné 31% de spectateurs. Et pourtant, ce festival Paris Cinéma,
c'est fini.
Agnès Barjot s'est fait licencier la semaine dernière. C'est un choix politique de la mairie de Paris qui en était le principal financier. La mairie qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, sur ce choix assez étonnant, il faut le dire. Je rappelle que c'est le deuxième festival de cinéma en France qui ferme ses portes en deux semaines, puisque à la mi-novembre, le festival du film asiatique de Deauville a annoncé non pas un arrêt pur et simple, mais une pause pour un temps indéterminé, là encore pour des raisons financières.
Alors, quels seront les défis ? Évidemment, que nous fassions mieux et toujours plus ensemble. Je ne vous dirai pas assez à quel point cette perspective est réjouissante. Donc, c'est avec cet enthousiasme que je tiens à avancer comme secrétaire générale, en m'appuyant sur l'héritage riche, fort, extraordinaire, le legs du secrétaire général Abdou Diouf. On ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède dans la continuité de son action.
C'est la voix que l'on vient d'entendre, c'est celle de Michaël Jean qui a été désigné ce week-end par 35 chefs d'État réunis à Dakar pour succéder à Abdou Diouf. À la tête de l'Organisation internationale de la francophonie originaire d'Haïti, elle a fait carrière au Canada. Et vous avez tenté, Zoé, de comprendre dans ce dossier du jour quel était son rapport notamment à la culture.
Oui, puisque la culture française et la défense notamment de la langue française et de sa littérature est un gros dossier de la francophonie. Et ça aurait d'ailleurs pu être un argument de poids pour Michaël Jean, dont la nomination est une double première. D'abord, c'est une femme, ça n'avait jamais été le cas. Et puis, elle n'est pas africaine puisqu'elle est canadienne et qu'elle est d'origine haïtienne. Sa nomination n'a pas fait l'unanimité, notamment parce qu'elle dispose... surtout par rapport à Diouf, d'une expérience politique très relative. Elle était avant cela, journaliste à Radio-Canada et elle a démarré une carrière politique dans des conditions assez étranges et qui font que l'on peine aujourd'hui à comprendre ses réelles convictions, comme l'explique Christian Rouilloux, correspondant du quotidien canadien Le Devoir à Paris.
Je pense que peut-être le terme qui la définirait le mieux, c'est peut-être le côté caméléon. Hein. Michaël Jean était... considérée à l'époque où elle était journaliste comme quelqu'un qui se tenait dans les milieux indépendantistes québécois, comme son mari d'ailleurs. Son mari a fait plusieurs documentaires, et notamment un documentaire assez connu sur la question du terrorisme au Québec. Pas les milieux gentils indépendantistes, les milieux carrément indépendantistes. Là. Le poète Gaston Miron, le cinéaste Pierre Perrault. Donc elle était considérée comme une souverainiste. Et tout à coup, un beau matin, le premier ministre Paul Martin l'appelle pour devenir représentante de la reine d'Angleterre au Canada. Et elle accepte. Ça a été l'émoi, ça a été le tollé au Canada anglais. Et ça a été les mois, évidemment, au Québec. Et là évidemment, oui, représentant de la reine qui devient représentante de la francophonie, c'est rocambolesque.
Alors, puisque l'engagement politique et l'expérience diplomatique n'est pas exactement l'élément fort de son parcours, on pourrait penser que la culture aurait pu être son point fort, Zoé.
Oui, puisqu'après tout, après avoir été propulsée donc gouverneure générale du Canada et représentante de la reine, elle a ensuite été nommée envoyée spéciale de l'UNESCO en Haïti, son pays natal, mais où son action n'est pas vraiment très claire quand on regarde. Elle a aussi donc était journaliste, documentariste. Son mari, il vient de le dire, Jean-Daniel Lafont, était cinéaste, philosophe. Elle a fréquenté donc ces artistes indépendantistes québécois. Mais en réalité, même sur ce plan de la culture, c'est toujours aussi flou. Et Christian Rioux.
Ces liens, ils sont rompus. Enfin, je vous sais, Pierre Perrault, là, cinéaste, un des grands inventeurs du documentaire moderne dans les années 50, au début des années 60. Ces liens avec les artistes indépendantistes québécois, c'est clair qu'aujourd'hui, ils sont rompus. C'est le grand problème. Michaël Jean a toujours, je dirais, toutes les appartenances. Hein. Elle est haïtienne, elle est québécoise, elle est canadienne. Elle se dit africaine, comme si les Haïtiens étaient africains. En fait. Et je l'ai déjà entendu se dire acadienne, parce qu'il y a un certain nombre d'Acadiens qui, par hasard, se sont trouvés en Haïti à une certaine époque. Donc, ça reste un mystère, parce que au-delà de ces appartenances, on ne connaît pas d'engagement culturel précis de Michaël Jean. D'ailleurs, à la limite, même ses goûts littéraires et tout ça, c'est des choses qui demeurent assez mystérieuses. Sinon, profession de foi générale en faveur de la langue française, en faveur du multiculturalisme, qui semble toujours approprié aux circonstances dans lesquelles on la trouve.
Voilà, donc en l'occurrence, de toute façon, la France, évidemment, mais aussi le Canada, Haïti et l'UNESCO ont salué sa nomination et le symbole très fort eh bien, que cette nomination représente.
Et l'on passe tout de suite au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec la création d'une chaîne de télévision, Science et Vie TV, qui est adaptée du fameux donc, hebdomadaire. Le groupe AB et le groupe Mondadori, donc, qui édite Science et Vie, le magazine, s'associent pour créer cette chaîne qui devrait voir le jour au printemps 2015 et qui sera payante.
Olivier Ries prend la tête du Berliner Ensemble.
Celui qui dirige aujourd'hui le Théâtre National de Francfort va donc prendre la succession de Klaus Peymann à partir d'août 2017. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le maire de Berlin. Fondé par Bertolt Brecht, le théâtre et sa troupe revendiquent 240 000 spectateurs par an, un des taux de remplissage les plus forts d'Allemagne.
La Chine condamne un chanteur tibétain à 4 ans de prison.
Kalsang Yarfel, chanteur populaire tibétain de pop qui mélange pop et musique traditionnelle, était détenu depuis l'année dernière dans des conditions dénoncées comme illégales par différentes ONG. Il a donc été condamné par un tribunal du sud-ouest de la Chine, région qui héberge une importante population tibétaine, pour avoir appelé dans ses chansons les Tibétains à s'unir pour défendre la langue tibétaine. Je rappelle qu'il est toujours interdit de la parler au Tibet. Et l'un de ses musiciens a lui été condamné à 2 ans de réclusion.
Et la dernière ?
Alors la dernière, c'est une histoire pas drôle de science-fiction et de racisme qui prouve que voilà, on peut aimer la SF et la fantasy et ne pas du tout être cool. Alors vous le savez sûrement si vous êtes fan de Star Wars, et même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, parce que tout le monde en parle, qu'il y a un 7e épisode en préparation, le premier qui ne sera pas réalisé par George Lucas. Les producteurs ont dévoilé au compte-gouttes les infos sur ce film depuis un an et vendredi, ils ont dévoilé la très 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 attendue bande-annonce du premier film. Et dans cette bande-annonce, on voit plein de choses, des combats, etc. Mais on voit notamment John Boyega, un jeune acteur noir jusqu'ici très peu connu, qui interprète, on le reconnaît notamment à son uniforme, un Stormtrooper. Alors moi, ça ne m'évoque pas grand-chose, mais si vous êtes fan de Star Wars, c'est très très précis et que vous êtes à cheval sur le principe de la série, tout de suite ça peut vous rendre assez antipathique, ce qui s'est passé pour pas mal d'internautes, puisque dès qu'il y a eu cette bande-annonce, il y a eu des milliers de messages sur Twitter qui ont protesté contre le choix de prendre un acteur noir dans le rôle d'un Stormtrooper, car un Stormtrooper, en réalité, dans la saga selon les règles, c'est censé être un clone dont le géniteur est donc un acteur connu puisqu'il apparaissait déjà dans les précédentes sagas, qui est joué par un acteur néo-zélandais, donc on ne peut pas être noir et être un Stormtrooper. Alors en réponse, John Boyega, 24 heures après ça, inondé de messages, a remercié sur son compte Instagram ceux qui le soutiennent en ajoutant à l'attention de ses détracteurs, il faudra bien vous y faire les gars, car il y a aussi d'autres fans de la série qui sont eux un peu plus sympas, qui ont développé une théorie pour expliquer potentiellement pourquoi est-ce que cet homme pourrait être un Stormtrooper tout en étant noir, car en réalité, et là on rentre un peu dans le détail, les Stormtroopers sont des soldats d'élite commandés par la République, dirigés par le chancelier suprême Palpatine, futur empereur, maître de Dark Vador. Ils sont donc clonés sur le modèle du chasseur de primes Jango Fett, qui donc est blanc. Au début, ils sont tous identiques, mais ensuite, les habitants de la planète Kamino vont fabriquer progressivement des unités différentes, puisqu'ils se méfient des objectifs de Palpatine. Il y a donc cette 501e légion des soldats non clonés Disney. Et peut-être qu'en fait, John Boyega incarne l'un de ces soldats. On le souhaite, on ne le saura qu'en regardant le film. Dans tous les cas, c'est pas très sympathique.
Je n'ai absolument rien compris, bien entendu, mais c'était fait pour ça. Est-ce qu'il y a des réactions à ce journal de la culture de la part de nos invités?
Boris Charmat. J'ai emprunté la feuille et je vais la lire avant de la manger.
Vous n'êtes pas assez compétent.
Avant de la manger, ouais, comme dans son spectacle. Donc, je crois que vous vouliez revenir sur la disparition d'un festival de cinéma qui accompagne d'autres disparitions en ce moment.
Oui, c'est vrai qu'il y a deux centres d'art qui sont en train de disparaître et j'en connais bien l'un des deux, celui de Brétigny-sur-Orge, qui a eu quand même une programmation extraordinaire.
Dirigée par Pierre Balblanc.
Voilà, grand commissaire qui est associé à la prochaine Documenta
de Cassel.
Qui a fait des projets, comme notamment La Monnaie Vivante qui était présentée à la Tate. Enfin, c'est vraiment un des grands commissaires qui est déjà un tout petit centre d'art, tant bien que mal, je dirais. Mais c'est vraiment, c'est une nouvelle grave d'une certaine manière. Quel que soit le futur projet, finalement, à Brétigny. Et c'est vrai qu'il y a des nouvelles récurrentes
très
en ce moment
ouais.
De fermeture, voilà, de festivals qui ont des soucis. Et là, deux centres d'art.
Et pour vous, tout va bien du côté de Rennes, du centre chorégraphique Musée de la Danse, dont vous êtes le directeur?
Ça va à peu près bien, oui, merci.
À peu près bien?
Non, ça va bien, ça va bien, ça va.
D'accord. Vous aviez été candidat, on en avait parlé ici, hein, pour le Centre chorégraphique national de Montpellier. Quel était le projet que vous aviez pour ce festival, Boris Charmat?
Oh là là, c'est un peu derrière moi, parce que d'abord, je souhaite évidemment bonne chance.
À Christian Rizzo, qui a Rizzo, été nommé dernièrement.
Oh, ouais. C'était un projet un peu particulier, parce que je proposais de réunir Montpellier Danse et le Centre chorégraphique.
Donc le festival et le Centre chorégraphique, oui.
Et l'Agora et tout, et de faire
une sorte de grande maison de danse.
Ouais. Oui, c'était un projet un peu ambitieux.
David Enko, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter?
La même chose, à vrai dire. Je trouve que c'est toujours un drame quand des festivals n'ont plus de budget, et ça arrive dans beaucoup, beaucoup de domaines de la culture en ce moment, notamment aussi pour les conservatoires, qui sont quand même les bases de l'apprentissage musical pour à peu près tous les enfants, en France en tout cas. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que la plupart des budgets avaient été coupés, ce que je trouve totalement hallucinant. Moi, s'il n'y avait pas eu de conservatoire, je ne ferais pas de musique aujourd'hui. Bon, peut-être un petit peu, parce que dans ma famille, il y en a pas mal. Mais...
Oui, quand même, vous venez d'une longue...
Mais quand même, j'ai suivi tout le cursus classique, puis jazz, et je trouve que c'est une des façons vraiment... c'est inacceptable, en fait, parce que les enfants peuvent avoir accès à autre chose que ce qu'il y a à la télé, que ce qu'il y a sur les mauvaises radios. Pas comme France Culture.
Je l'adore, David Enko.
Non, mais c'est vrai, il y a quand même vraiment, niveau culture, c'est dramatique. Enfin, c'est archi pourri quasiment partout. Et le fait de couper des budgets à des conservatoires qui sont les viviers de l'apprentissage de la musique, de la danse, du théâtre, de différents arts, c'est dramatique.
On va commencer tout de suite avec juste une information, parce que j'ai fait une erreur tout à l'heure. Je n'ai pas annoncé quelque chose à 19h45 et pourtant ce sera de la musique live, celle du lundi.
Oui, une session de rock de surfeur avec le groupe The Dedicated Nothing. Ils joueront Love Me Girls en direct dans le studio.
19h20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Ingestion avec vous, Boris Charmat, danseur, chorégraphe. Vous êtes le directeur du musée de la danse, Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Et vous signez aujourd'hui Manger. C'est au Théâtre de la Ville à Paris, dans le cadre du Festival d'automne. Une pièce pour 14 danseurs, 8 hommes, 4 femmes, tous simultanément sur le plateau, tous en tenue de ville, tous occupés durant l'heure du spectacle à manger, ingurgiter, cracher, réingurgiter des feuilles de papier, sans décor, pas de bande son, le tout sous un ciel de néon. Et à cette ingestion continue s'ajoutent la danse et le chant a cappella. Je sais que c'est une pièce à laquelle vous pensiez depuis des années. Quel en avait été l'élément déclencheur à l'époque?
Il y a plusieurs éléments, mais... Au début, je cherchais, parce que j'ai fondé le musée de la danse il y a quelques années, et j'avais envie...
À Rennes.
Voilà, à Rennes, j'avais envie de trouver un format qui dure toute une journée muséale, et j'avais imaginé chorégraphier tous les moments de la journée, c'est-à-dire peut-être un moment d'échauffement, un moment de repas, une sieste, une répétition, un spectacle, une fête. Et j'ai commencé avec des étudiants à Hambourg sur le fait de travailler sur un repas mobile, et on a fait une sorte de conférence improvisée, collective, où chacun prendrait la parole les uns à la suite des autres pour continuer une conférence sur l'intérêt qu'il y aurait à faire un dîner mobile. Et j'ai adoré ce qu'ils ont raconté, ces étudiants. Ils ont parlé de danse et d'anorexie. Ils ont parlé des gens qui mangeaient dans le métro et qu'on avait de moins en moins de temps pour manger. Et ils se sont dit, mais si on faisait un spectacle ou un projet autour d'un repas mobile, on prendrait le temps d'observer un phénomène lié au manque de temps. Et puis, en parlant, comme puis chacun a raconté des souvenirs aussi, de nourriture, de mouvement, des marathoniens qui doivent s'alimenter. Et j'ai eu l'impression que c'est un projet qui pouvait effectivement me porter pendant plusieurs années. Et que surtout, ce projet-là, en fait, on pouvait faire la sieste en mangeant, on pouvait faire la fête en mangeant, on pouvait répéter en mangeant, on pouvait faire un spectacle en mangeant. Et qu'en fait, cette petite partie du spectacle que j'avais imaginé, ce serait ça, finalement, qui allait avaler tout le projet. Et en fait, finalement, qu'on allait manger, mais qu'on allait surtout faire une sorte de métaphore de comment on mange les informations. C'est-à-dire là, on vient d'entendre les informations du Journal de la Culture et puis les informations générales. On est parti de cette image où on mange des chips, on mange un sandwich ou des snacks, peu importe, devant les informations. Et on croit qu'on mange les chips, mais en fait, on mange les informations. En fait, on est parti de là. Alors, c'est peut-être une mauvaise idée pour commencer un spectacle de danse, mais on est parti de là pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble avec 14 interprètes exceptionnels.
Parce qu'au départ, il ne devait pas être 14, Manu Farine.
Parce qu'il y avait eu une première piste, je crois, d'un spectacle à 100 danseurs. Qu'est-ce que ce travail dans la masse devait permettre et pourquoi l'avoir abandonné?
En fait, c'est vrai que depuis que je suis arrivé au Musée de la Danse, donc au Centre chorégraphique national de Rennes, j'ai eu envie de faire des pièces larges. On a fait des formats d'exposition collectifs. Il y a rarement un commissaire dans nos expos, il y en a au moins 3 ou 4. Donc on partage beaucoup et j'ai fait des grosses pièces comme Lever des conflits ou Enfants. Et j'ai toujours un fantasme de faire une pièce pour 100 danseurs. Et j'ai cru que cette pièce mangeait pour être pour 100 danseurs, mais j'ai fait un stage d'ailleurs où on mangeait. On dansait, on chantait pas encore à l'époque, avec 65 stagiaires, enfin des artistes, des amateurs. Et j'ai adoré faire ça, mais j'ai eu l'impression que c'était trop une orgie, qu'on n'était pas assez face à des individus en train de manger. Et peut-être qu'il y avait quelque chose de plus évident en fait, et qu'il fallait qu'on rentre vraiment dans la subjectivité, dans la manière dont chacun pouvait s'emparer de la nourriture. Et du coup, on a réduit le groupe au maximum et on est arrivé à 14.
Vous avez donc choisi un aliment propre, c'est le papier azim, une feuille blanche, format A4. Mais ce n'était pas votre premier choix pour les répétitions. Vous aviez travaillé avec de la salade, des carottes, vous avez même envisagé de la barbe à papa ou alors des pâtes bolognaises. À quel moment ce matériau du papier azim s'est imposé et qu'est-ce que ces feuilles et finalement cette forme abstraite vous a permis?
Bon, c'était un long processus. C'est vrai qu'on a un peu tout essayé. Et j'adorais la barbe à papa noire, en fait, colorée, ce qu'on aurait dit des sacs d'aspirateur, vous savez, des sacs de poussière.
Pourquoi ça marchait pas?
Ça marchait plutôt bien.
Ouais, même visuellement.
La barbe à papa noire, ça marchait bien. Mais le papier, finalement, c'est devenu le papier. Bon, on avait l'impression que c'était une surface de projection, en fait. Est-ce que c'était les journaux, justement? Est-ce que c'était le contrat, les contrats ou le contrat social? On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'était les partitions aussi? Est-ce que c'est du texte? Et évidemment, les danseurs ont tout un rapport à la langue particulier. On dit que les danseurs, ils parlent pas ou, parce qu'ils bougent. Et le fait d'avoir ces feuilles, on s'est dit, mais en fait, c'est plus fort que tout le reste. C'est-à-dire, on travaille avec des cailles rôties pendant un moment. Les cailles, c'est fantastique parce qu'on peut faire un ballet de cailles. Vous voyez les petits oiseaux et du coup, on dirait des petits enfants et on peut les faire bouger, danser, on peut les grignoter, ils deviennent des squelettes au fur et à mesure qu'on les mange. Et on peut même, il y a certains danseurs, Mani Munga, ils mangeaient les os de la caille, c'est incroyable. Mais quelque part, on était dans des... Si on mangeait n'importe quoi, c'était la malbouffe, la société de consommation. Donc, si on mangeait des carottes, on était des danseurs végétariens. Si on mangeait des poulets, c'était la question de tuer les animaux ou pas. Et au fond, c'était pas nos questions. En fait, notre question, c'était plutôt la digestion du réel et le papier. C'était suffisamment abstrait et très concret aussi pour porter ce spectacle qui était finalement moins une question de gastronomie ou qu'une question plus vaste, en fait.
Manu Farine.
Bon, on écoute un extrait.
Da
pas tout à fait un extrait, c'est plutôt un montage. Et ce qu'on entend notamment, c'est l'interprétation d'un poème de Christophe Tarkos, Le bonhomme de merde, qui pourrait faire penser à une autre de vos pièces, Confort Fleuve, qui est une pièce de 99, où vous mettiez dans la bouche de vos interprètes des poèmes pornographiques de John Giorno. Est-ce qu'on pourrait faire le lien entre les deux ?
C'est possible. En tout cas, c'est vrai que dans Confort Fleuve, on utilisait la voix pour un moment très particulier de la pièce. Et au départ, on devait travailler presque uniquement sur des canons. C'est un musicien, un chanteur qui m'avait, en voyant lever des conflits où il y avait 24 danseurs, m'avait parlé d'un canon qui s'appelle Couille Habitat de Josquin Després, qui était fait pour 24 voix. Et il pensait qu'on avait fabriqué lever des conflits sur ce canon, on ne l'avait pas fait. Mais du coup, j'avais imaginé travailler surtout sur des canons. Et en fait, pendant les répétitions, on a cherché plein de choses, finalement d'espaces mentaux différents dans la pièce. Et j'avais besoin de plus de textes. Et c'est vrai que j'avais déjà travaillé dans le passé sur des textes de Tarkos que j'aimais beaucoup. J'avais essayé de l'inviter. D'ailleurs, c'était à Rennes déjà, il y a très longtemps. Et j'adorais ses performances. Et je suis tombé sur ce bonhomme de merde qui vient d'être publié
chez POL. Chez POL, avec d'ailleurs un CD enregistré par Tarkos.
Parce qu'en fait, c'était pas un texte publié, c'est une performance orale en fait. J'ai réécouté ce texte. Il le fait à sa manière. C'est à la fois très drôle et horrible, terrible. Et je me suis dit que c'était exactement ce dont on ne parlait pas dans le spectacle. On s'occupait pas du tout de digestion finalement. On parlait pas de la suite et que finalement le poème disait quelque chose de notre pièce, mais disait aussi ce que nous on disait pas de notre pièce et on l'a intégré dans le spectacle et c'est devenu un point un peu nodal, un point central de retournement. Et quelqu'un me disait, Arnaud Stéphane, c'est un comédien metteur en scène de Rennes, il me disait, quand vous dites le poème de Tarkos sur la merde, c'est comme si vous disiez oui, ok, c'est de la merde, peut-être c'est ce que vous pensez, peut-être c'est comme ça, et en même temps c'est peut-être ça, mais on va continuer à le faire, et les gens peuvent se... Il y a ceux qui rient, ceux qui rient pas, mais ça permet de poser en fait les spectateurs, et on peut continuer un peu sereinement, on va dire. Et j'adore ce poème, cela dit, et il faut l'écouter lui, parce que nous on le fait à notre manière, mais il le fait avec un accent légèrement marseillais, c'est très particulier.
Alors à propos de bouche et de son, comme à tous nos invités cette saison, on vous a demandé d'apporter un son qui vous a marqué, et voici ce que vous avez choisi, Boris Charmatz.
Autour de Vaduz, il y a des Suisses. Autour de Vaduz, il y a des Autrichiens. Autour de Vaduz, il y a des Allemands. Il y a autour de Vaduz, des Tyroliens. Il y a des Saxons. Il y a autour de Vaduz, des Bavarois. Il y a autour de Vaduz, des Silésiens. Des Tchèques. Il y a autour de Vaduz des Slovaques. Il y a autour de Vaduz des Magyars. Il y a des Slovènes. Il y a des Ligures. Des Vénitiens. Des Italiens. Il y a des Provençaux. Il y a des Savoyards.
Identification de ce son, Boris Charmatz, c'est la raison pour laquelle vous l'avez choisi, même si je m'en doute un petit peu.
C'est un poème qui s'appelle Vaduz de Bernard Hetzi, qui est Bernard Hetzi qui vient de mourir. Ouais. Et c'était un des grands poètes sonores, poètes orales. C'est un des premiers à avoir utilisé le magnétophone pour doubler sa voix. C'était plus la voix du poète unique, c'est une voix double, une voix triple, il y a des contre-voix. Et c'est quelqu'un que j'ai découvert avec Fanny de Chaillet. Et j'ai adoré son travail. Et il a fait une performance de ce poème Vaduz dans la montagne au col du Semnoz. On avait fait une résidence d'artistes avec beaucoup d'artistes, Xavier Leroy, Jean-Luc Moulin, plein de gens. Et lui, il était là et il déroulait. Il était dans une sorte de cratère au sommet du plateau et à 2000 mètres d'altitude. Il avait déjà du mal à respirer. Et c'était pourtant vers l'an 2000. Et il déroule ce poème. C'est un poème très touchant parce que c'est comme si Vaduz, qui est un paradis fiscal, devenait le centre du monde. Et il fait une grande cartographie de tous les peuples autour de Vaduz. Mais il termine par ceux qui n'ont pas qui sont les opprimés, qui sont sans domicile, sans pays, sans les réfugiés, les apatrides. Et c'est un très très beau poème. Et il y a une rumeur de stade au bout d'un moment qui enfle. Mais bon, là, c'est surtout un artiste fort qui vient de disparaître.
Mène Farine.
Retour au spectacle, donc Boris Charmatz, sur votre plateau au Théâtre de la Ville, ça danse, ça chante et donc ça mange en permanence. Autrement dit, comment mouvoir le corps à partir de la bouche. Jusqu'ici, qu'est-ce que l'histoire de la danse a fait de la bouche ? Comment est-ce que la danse a pris en charge la bouche ?
Bon, si c'est le cas.
Je ne suis pas historien, hein, mais c'est vrai que... c'est peut-être un rapport intime. Moi, j'aime bien les gestes comme ça, des mains, les doigts, de la bouche, les yeux. Il y a une connexion comme ça qui me plaît. C'est peut-être un rapport à l'enfance aussi. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un interdit... peut-être un peu comme ça, archaïque en danse, parce que c'est l'endroit où on respire, évidemment. Peut-être la nourriture, et aussi, si ce n'est un interdit, mais c'est quand même un souci en danse. Je dis toujours que c'est la deuxième question du chauffeur de taxi. La première, c'est est-ce que, quand on a dit qu'on était danseur, c'est un vrai métier
Est-ce que vous en vivez?
La deuxième question, c'est quel est votre régime? Et c'est vrai qu'il y a c'est à la fois un fantasme, mais quelque chose de très concret, le corps, il est aussi construit par ce qu'on mange, donc comment on s'y prépare, comment on éloigne la nourriture du moment du spectacle. Donc, que la bouche soit un lieu ouvert, en fait, qui soit pas le lieu seulement de la respiration ou du sourire, hein, parce qu'évidemment, on apprend dans les conservatoires plein de bonnes choses, mais aussi à sourire désespérément, même si en fait on a envie d'ouvrir la bouche et de cracher ses poumons parce que la danse est dure. Il y a encore ce vieux cliché, on est face à la glace, on sourit, on présente bien, d'avoir un corps perméable, un corps ouvert avec de la nourriture qui rentre dedans, ça, on insiste sur quelque chose d'autre, en fait, hein, sur un corps qui se suffit pas à lui-même. Et c'est vrai qu'en danse, on a souvent l'impression que le corps se suffit à lui-même, qu'on n'a plus besoin de l'amour réel, on n'a plus besoin de grand-chose. La danse nous nourrit. Et évidemment, la danse, elle a besoin de se nourrir du social, de l'économique, et puis aussi d'aliments et d'un rapport à plein de choses, y compris à la merde, pourquoi pas.
Lévidenko, vous qui êtes musicien, à qui j'imagine le chauffeur de taxi pose la même question, est-ce que vous en vivez, c'est ça? Est-ce que c'est votre vrai métier?
En fait, c'est plus drôle encore. À la sortie des concerts, souvent les gens nous disent, mais alors
qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Vous faites des études ou... Alors maintenant, je me suis laissé pousser la barbe, donc on me demande plus si je fais des études, mais on me demande si je fais autre chose. Donc ça dépend des fois. Parfois,
vous avez écouté Boris Sherman, c'est ce qu'il y a des questions qui vous viennent, vous qui avez travaillé, je crois, avec une chorégraphe notamment, vous aviez travaillé.
J'ai travaillé un petit peu avec Michael
Pietragala il y a quelques années.
Pas très longtemps. Moi, la danse, c'est un univers que je connais très très mal. Pourtant, mon grand-père a été marié avec une danseuse pendant longtemps, j'aurais dû lui poser des questions, mais je connais vraiment pas du tout. Je connais plus à travers les ballets, à travers la musique en fait que j'ai écouté. Mais du coup, je serais ravi de venir au Théâtre de la Ville, découvrir.
Là, c'est vraiment de la musique en amateur, au sens où on porte. Au départ, il y avait une bande-son aussi qu'Olivier Renouf travaillait.
Il y avait une bande-son au départ.
Au départ, en plus de nos voix. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte, mais c'était un écosystème qu'on fabriquait. On mange, on danse, on chante, on fait tout nous-mêmes. Et on est très seul aussi avec ça. Mais la musique, c'est aussi ce qui... Autant les feuilles de papier, c'est ce qu'on ingère. Mais la musique, c'est ce qui nous connecte, ce qui parvient peut-être le plus facilement aussi au public. Et c'est une sorte d'espace mental qui s'ouvre. Alors, il y a des gens qui ont dit que c'était la musique qui venait du ventre, je ne suis pas sûr, mais on a travaillé sur beaucoup de ritournelles, de musique un peu obsessionnelle.
Mais ça s'entend dans l'extrait qu'on a entendu, il y a quelque chose de très rythmique, enfin, là, dans le poème qui était dit.
Oui. C'est vraiment en groupe qu'on chante tout ça. C'est 14 matières extrêmement hétérogènes, en fait. Il y a du chant de Renaissance, il y a Sexy Sushi, c'est un groupe électro extraordinaire d'aujourd'hui. Il y a une ritournelle de Beethoven, il y a du poème de Tarkos, il y a plein de choses.
Pourquoi vous n'êtes pas sur le plateau?
Pour les gros groupes, il faut quand même vraiment... regarder pour organiser. Il fallait faire tout un travail d'accordage, hein, comme on accorde de tuniques, c'est des personnalités, des artistes extraordinaires, mais il fallait finalement les accorder, en fait. Hein, et je crois qu'il fallait vraiment être à l'extérieur, sinon je ne comprenais même pas ce qu'on cherchait dans cette pièce. Et peut-être je ne comprends toujours pas, mais on a fabriqué quelque chose.
Le rendez-vous. Extérieur.
Lévidenko et Boris Sherman, on vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, c'est le créateur lumière Éric Houlier qui a travaillé d'ailleurs avec vous, Boris Sherman. Manu ?
Oui, je ne suis pas sûre d'ailleurs que le terme créateur lumière lui convienne, éclairagiste en tout cas, qui éclaire notamment les pièces du performeur sud-africain Steven Cohen, qui a travaillé avec Robin Orlin, François Chéniaud, Cécilia Bengolea, Aurélien Richard, Nadia Beugré, ça c'est en ce moment, et comme ça tombe bien avec vous aussi, Boris Sherman. Et donc, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps.
Questionnaire lumière, Éric Houlier, Manu Farine.
La lumière que vous associez à votre enfance?
Je dirais la lumière d'hiver dans la neige, en Bretagne, au sud de Rennes. C'est une lumière silencieuse, une lumière libre.
Premier choc comme spectateur?
Le vrai premier choc, c'était Bob Wilson. C'était Orlando avec Isabelle Huppert. Il faut dire que c'était un déballage presque pyrotechnique. C'était une lumière extrêmement fine, mais avec de gros moyens. Au tout début, la scène était éclairée au travers d'un crâne bleuté, au travers duquel émanait une lumière très faible. Et Isabelle Huppert s'approchait du crâne et l'a révélé. Je me suis dit, mais c'est génial, j'ai envie de faire ça.
Première scène éclairée.
J'ai fait des concerts de rock. J'ai travaillé avec des ensembles médiévistes dans des sites que tout le monde connaît, Mont-Saint-Michel, etc. Et après, je suis arrivé au théâtre. Et en fait, mon vrai choc de théâtre, c'était quand je suis arrivé à Brest en 97. J'ai traversé la Seine vide. Je pense que traverser la cale du Titanic, ça doit faire à peu près le même effet. Vous êtes dans un monument de métal, de bois, avec des choses très compliquées. À l'époque, je n'y comprenais pas grand-chose. Et mon travail aujourd'hui se résume à ça, c'est-à-dire je fais le grand écart entre la machine de théâtre et les limbes des cerveaux torturés, les artistes avec lesquels je travaille.
Un créateur lumière qui a pu fonctionner comme modèle ou comme référence pour vous?
Je vais citer Yves Godin. On est très différents, on ne regarde pas dans la même direction, mais justement, il utilise la lumière nue. Moi, je suis beaucoup plus près de l'artiste et son univers, je suis prêt à faire des choses esthétiquement qui me déplaisent. Avec Steven Cohen notamment, j'ai le souvenir à Avignon, voilà, il m'avait dit j'aimerais une esthétique très cheap, j'avais travaillé des lumières très sobres, justement un peu à la Yves Godin, froide et radicale. Il m'a dit s'il te plaît Eric, l'espace qui accueillait une centaine de rats, il m'avait demandé, j'adorais l'éclairer en rose, mais un rose très pédé, très queer, c'est pas possible Avignon, cour d'honneur, me faire ça, c'est... Et puis évidemment, je me suis dit, mais oui, mais c'est logique, je peux pas faire autrement.
L'artiste qui vous a mis en danger?
Steven, parce que déjà, il déteste le plateau. Il n'a jamais eu un rapport à la scène simple. C'est quelqu'un de l'extérieur. Donc, bon, cette année, on s'y est attelé. Mais en abandonnant complètement l'esthétique européenne du théâtre et qu'il ennuie prodigieusement.
Une définition possible de votre métier?
Déjà, je suis un peu mal à l'aise avec la notion artistique de l'éclairage. Pour moi, on est là en tant que vecteur. Pour souligner... On fait un travail de journaliste, finalement. On donne un point de vue. Et ce point de vue, il peut fondamentalement renverser une proposition et la détruire ou la pervertir.
Un geste ou un effet interdit pour vous en matière d'éclairage?
Aucun. Absolument aucun.
La lumière que vous associez à Steven Cohen?
Le rose. Et la lumière du jour. Je pense que c'est vraiment la lumière qui lui correspond le mieux.
L'autre métier que vous auriez pu faire?
Costumier, je pense. J'aurais adoré faire ça.
Éric Houllier, merci.
Une réaction, Bruce Schermatz, vous qui avez travaillé avec Éric Houllier.
Je travaille beaucoup avec lui, souvent avec lui. Il reprend souvent les lumières d'Yves Godin, justement. Ouais. Mais c'est génial, c'est la radio, c'est ça, mais je n'ai jamais entendu dire ça. Et des fois, on travaille comme des fous sur des spectacles et on ne prend pas le temps de discuter de c'est quoi la lumière pour lui ou c'est quoi son premier souvenir. Et donc, il n'y a rien de ce qu'il ait dit que je savais. Et pourtant, je le connais. J'ai l'impression de bien le connaître et donc je trouve ça incroyable.
David Nkobou, quand vous êtes en concert, vous faites attention justement à la lumière aussi,
en
spectacle.
Ah oui, parce que s'il n'y a pas de lumière, les gens ne vous voient pas.
Bien entendu, mais on peut la travailler d'une certaine façon. Vous avez des directives précises? Vous aimez quel genre de lumière?
Moi déjà, je m'entoure toujours de la même équipe. C'est-à-dire que j'aime vraiment travailler avec les mêmes personnes tout le temps pour construire quelque chose dans la durée. Et la lumière, moi, dans les concerts, ça peut être très dur, la lumière. Quand on tombe sur des ingés lumière qui... ont des goûts spéciaux, ça commence à clignoter, on a plein de lumières partout, ils coupent les lumières devant les solistes, enfin parfois on a des petites surprises, moi j'aime bien quand c'est sobre, quand il y a pas beaucoup de, quand il y a quelques couleurs chaudes, quelques couleurs froides pour mettre en valeur la musique en fait, l'augmenter, créer, ne pas être que dans un concert mais dans un spectacle en fait, il y a toujours cette dimension de spectacle qui est importante pour moi.
Et pour manger, quelles étaient les directives pour la lumière? Parce qu'au départ, la même lumière baigne la scène. Et la salle, au fur et à mesure, la salle va être plongée dans le noir. Et puis au fur et à mesure, la salle va retrouver sa lumière avant même la fin du spectacle.
C'est vraiment un spectacle de réduction parce que on mangeait, mais c'était pas tellement spectaculaire. J'avais pas envie qu'on écrase la nourriture sur le plateau et qu'on s'intéresse au contraire à la disparition. Et en fait, tout le processus, y compris avec la lumière, c'était de réduire. Et au départ, la lumière était beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Mais moi, j'adorais ce plafond qu'il a fabriqué, Yves Godin, avec des... Tout le monde dit des néons, mais en fait, c'est des barres à LED, hein, ce nouveau type d'ampoule en fait. Et puis, en faisant des essais, il y a un défilage, on avait laissé la lumière dans la salle et on se disait, mais en fait, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus brut que ce qu'il y avait à l'époque. Et lui, il a fait un mélange, il fait baisser en 25 minutes la lumière de salle. Et j'adore cet effet-là. En fait, on se rend compte que ça baisse ou on ne s'en rend pas compte, mais il y a un moment où on est... on est complètement sur le plateau finalement. Parce que quand on est vraiment dans le noir en tant que spectateur, on est arrivé sur le plateau, mais au lieu d'y arriver en 5 secondes comme d'habitude, on met 25 minutes. Et en plus, ça se rallume sur la fin. Donc finalement, le temps où on est vraiment dans du spectacle, où on serait nous, spectateurs, dans le noir face à la scène, c'est peut-être un tiers du spectacle seulement.
Le rendez-vous.
Plateau Jeune Jazz avec vous, David Enco, trompettiste, formé au jazz depuis votre enfance dans tous les types de formations du duo Big Band. Vous avez joué notamment avec votre mère, Caroline Casatsus, avec Didier Lockwood, avec Quincy Jones même cette année. Ouais. On vient d'ouvrir avec un extrait très rapide de votre second album Layers, paru chez Gnome. C'est le label que vous venez de fonder avec les 5 autres jeunes musiciens de jazz. Qu'est-ce que dit ce nom, Gnome, de ce que vous voulez défendre, vous ?
Gnome, c'est la fin du mot autonome.
Oh, je m'en doute, oui.
Et en fait, c'est comme ça dans beaucoup de styles musicaux, mais dans le jazz, il n'y a plus vraiment de producteurs, on gagne plus d'argent en faisant des disques. Le disque, c'est une sorte d'objet d'art. Et très souvent, un disque, c'est plutôt un objet commercial qui sert à faire de la promotion et à vendre plus de concerts. Et évidemment, c'est le cas pour chaque produit qui sort, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de réduire le disque à ça, uniquement un objet commercial. Et du coup, en créant ce label avec les 5 autres musiciens avec qui je l'ai fait, on a eu vraiment envie de remettre le disque au centre d'une démarche artistique.
Lucille Comeau.
Un mot sur le titre de ce second album, Layers, qui veut dire couche. C'est une référence à la peinture, je crois. Qu'est-ce que cette métaphore dit de votre façon de travailler avec vos musiciens en quatre têtes ?
En fait, dans le jazz, il y a quelque chose d'indispensable, c'est le côté collectif de la musique, parce qu'il y a la musique qu'on compose, donc c'est à peu près, je sais pas, 20 ou 25% de ce qu'on entend quand on écoute le disque ou quand on vient nous voir en concert, mais tout le reste, c'est de l'improvisation. Alors, il y a des règles, on fait évidemment pas n'importe quoi, c'est une des questions qu'on me pose souvent d'ailleurs à la fin des concerts, mais alors, vous inventez tout ? Non, c'est comme dans la musique classique, comme dans la danse, il y a des règles qu'on respecte, qu'on suit ou qu'on choisit de ne pas suivre. Mais dans cette musique, en fait, quand on la compose, parce que je ne suis pas le seul compositeur sur ce disque, on essaie de toujours laisser une énorme place au libre arbitre et au choix que peuvent faire les différents musiciens en temps réel. Ce qui fait qu'on essaie toujours de se surprendre nous-mêmes et entre nous, bien sûr, pour créer quelque chose qu'on n'entend pas forcément avant de le jouer ou créer quelque chose auquel on ne s'attend pas.
Vous comprenez, j'imagine, ces précisions, Boris Sharma, que vous aviez fait un duo avec un musicien de jaz, trompettiste, Médéric Collignon.
Ah oui, ouais. Génial, Médéric.
Ouais. Improvisation, ouais,
c'est un duo, mais c'est surtout plein d'impro à chaque fois. Alors là, pour le coup, les règles, lui, c'est vraiment pas son
corps.
Il est complètement taré. Et c'est marrant.
Mais il est génial en même temps, c'est un musicien.
Mais en fait, j'adore la trompette, mais je suis entre les exercices de conservatoire de mon fils, qui a 11 ans et qui fait de la trompette comme
un fou. Ils sont horribles, ces exercices.
Mais il les fait bien. Et puis Médéric, qui a aussi fait, si je dis pas de bêtises, du conservatoire, en tout cas de l'école de musique.
Oh bah sûrement, vraiment. Ouais.
Comme vous.
Mais c'est le versant scène, et spécialement avec lui. Et du coup, finalement, j'écoute assez peu de trompettes par ailleurs, donc ce sera l'occasion.
Bah justement, on va en écouter.
Oui, David Enco, il n'y a pas vraiment de soliste dans l'album, ça crée une forme d'égalité, de fondu dans l'écriture. Les 4 parties vont parfois même jusqu'à l'unisson. On écoute un extrait. C'est un principe esthétique, l'unité, ou c'est un principe éthique de jeu ?
Les deux. L'éthique, c'est hyper... Cette éthique-là, elle est hyper importante pour nous parce que, justement, il n'y a pas de musicien qui est plus en avant que les autres. On crée tous les 4 ensemble et en fait, si quelqu'un prend trop le pas sur les autres, dans ce cas-là, il n'y a plus de construction. On tombe dans des habitudes ou on tombe dans quelque chose de déjà vu ou on se parodie nous-mêmes parce qu'on a fait un autre concert, quelque chose qu'on aimait bien. Là, sur un disque, c'est fixé, donc... C'est fixé, mais on essaie de l'enregistrer comme quand on fait un concert dans les conditions d'un live. C'est-à-dire qu'il y a très peu de montage sur ce disque, et c'est quasiment à chaque fois les premières prises qui sont gardées pour garder une sorte de fraîcheur dans la musique et d'honnêteté, en fait, de justesse.
L'album est construit même sur un plan dramaturgique. Il y a un interlude, il y a un épilogue. Quelle est l'histoire qui est racontée, pas véritablement en termes de récit, mais quelle est le cheminement de ce disque, de cet album ?
Alors, c'est une question qui n'est pas facile d'y répondre parce qu'à vrai dire, il n'y avait pas de cheminement quand
j'imagine
on a enregistré
bien,
l'album. Le cheminement, on l'a construit. L'idée de départ, j'avais très envie qu'il y ait de courts interludes entre les différents morceaux plus développés. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien parce que c'est comme un livre, en fait, ou comme un film ou une pièce de théâtre. Ça raconte vraiment une histoire et on peut l'interpréter comme on veut. Mais j'aime bien cette dramaturgie qui est créée en plongeant l'auditeur dans une atmosphère pas très longue, ça fait 45 ou 50 minutes, mais très dense. Donc chacun peut y trouver les histoires qu'il veut, les titres en racontent quelques-unes.
Justement, à propos du titre.
Il me semble que vous avez intégré un standard seulement, Nancy with a Laughing Face, dont on connaît surtout la version chantée par Sinatra. Ouais. On écoute la vôtre. Vous en faites un morceau très sobre, presque minimal, avec seulement la trompette et la contrebasse. Qu'est-ce que vous recherchiez avec une telle partition ?
L'intimité qu'on peut retrouver avec beaucoup de standards de jazz qui sont à la base des chansons, évidemment. Moi, je chante très très mal, donc du coup, j'ai préféré la jouer à la trompette. Mais ça, ce morceau-là, on l'a enregistré en fait à la toute fin de l'enregistrement. On était tous épuisés, on est passé 4 jours en jouant 10, 12, 14 heures de musique par jour pour essayer de trouver vraiment ce qu'on voulait faire avec ce disque. Et c'est vraiment les dernières minutes d'enregistrement qu'on a faites avec Florent Nice, qui est le contrebassiste avec qui je joue. Au début, c'était un jeu, en fait. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme standard ? Parce qu'on avait envie aussi de relier... Il n'y a que des compositions originales, mais on avait aussi envie de relier ça à la musique qu'on écoute tout le temps et qui fait qu'on joue ce style-là. Et cette musique, elle a été vraiment émancipée par ces grands standards de jazz issus des comédies musicales. Et il y a un musicien qui nous a énormément influencé, c'est John Coltrane, qui à mon avis a influencé tous les musiciens de jazz qui sont vivants aujourd'hui. Et il avait enregistré une très très belle version, je ne sais plus avec qui, mais de ce standard qu'on avait écouté quelques jours plus tôt. Et on a décidé d'en faire notre version.
Alors comme le fils de Boris Sharmatz, vous avez choisi la trompette très tôt, vous vraiment très très tôt. Pourquoi vous aviez choisi cet instrument alors même que vous commencez par le piano ? Qui dans votre famille a décidé que vous feriez de la trompette ?
Alors vous connaissez déjà l'histoire ou pas ?
Ah non, je ne la connais pas. Ah bon ? Si je pose la question généralement, parce c'est que je ne connais pas.
Alors en fait, j'ai commencé à 3 ans le piano.
Ouais, ça je sais.
Mon papa est il est éditeur de livres, mais il est pianiste amateur et très très bon pianiste. Et donc j'ai commencé le piano, mais j'avais une prof russe avec une très très longue règle. Enfin, le stéréotype de la prof russe, ouais. Je détestais. Et du coup, je détestais le piano aussi. Et mon petit frère, qui avait 2 ans de moins que moi, qui s'appelle Thomas Enko, qui est un formidable pianiste pour le coup.
Pianiste de jazz, lui aussi. Ouais.
Donc quand j'avais 5 ans, j'ai décidé d'arrêter le piano, mais lui n'avait pas le droit de commencer tant que moi j'en faisais. C'était la règle de ma mère.
Qui était soprane.
Qui est toujours soprane, oui. Et du coup, quand j'ai arrêté à 5 ans dégoûté du piano, lui a commencé en à peu près 2 semaines, il était plus fort que moi en 2 ans. Et il était toujours très 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 rapide. Et donc du coup, quand ma maman s'est remariée avec Didier Locoud, il avait une vieille trompette qui traînait dans un placard. Et il m'a dit, tiens, prends ça, c'est trop lourd pour ton frère, t'as à peu près 2-3 ans. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et pour vous, Boris, pourquoi votre fils fait de la trompette ?
Oh, je crois que c'est un hasard, hein. Mais il fallait surtout que ça pouvait pas être le piano parce qu'on voyage tout le temps. Donc il fallait que ce soit un instrument transportable et la trompette de poche, c'est idéal au départ. Maintenant, elle est un peu plus lourde. Mais...
Le son du jour que vous avez choisi pour vous, David Enko, voici ce que vous avez choisi. Très vite, identification de ce son très étrange.
C'est le son du sabre laser dans Star Wars.
Pour quelle raison ?
Parce que j'adore Star Wars. Mais à vrai dire, ça c'était le son blague que j'avais choisi. J'en avais choisi 2 autres, beaucoup plus sérieux. J'avais choisi des extraits de très beaux concertos de piano de Prokofiev.
Aucun intérêt. C'est celui-là qu'on a repris.
Mais j'étais sûr que vous alliez choisir celui-là. Et bah, moi j'ai regardé le teaser du prochain film.
Et alors ?
Bah, j'ai hâte de le voir. J'ai regardé les 6 autres il n'y a pas longtemps avec ma copine.
Moi j'étais sûr que c'est du Stockhausen là.
Effectivement, c'est Stockhausen. Non, c'est pour ça que j'ai choisi. Je suis un très grand fan de Stockhausen et c'est ça.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, on va rester en musique d'une certaine façon tout de suite. La session du lundi.
Session sous la vague avec le groupe The Dedicated Nothing, groupe de rock indé originaire de Biarritz. Dedicated Nothing, selon une expression de Mickey Dora, qui était une icône rebelle du surf dans les années 50 en Californie, ça veut dire être dévoué, mais à rien, sans attendre autre chose que le simple plaisir de jouer. Ça donne un rock assez brut, assez urbain, toujours très élégant. Leur premier EP avait été très remarqué. Ils sortent cette année un album solaire, Down to Dusk, de l'aube au crépuscule. Ils sont tous les quatre ce soir dans le studio 108 de la Maison Ronde. Greg est au chant et à la guitare, Franck à la batterie, Clément à la guitare et Mathieu à la basse. Le morceau s'appelle Love Me Girls, The Dedicated Nothing. C'est à vous.
I was born the other morning, love. Life could tell I would travel all around. I was dead the other evening, love. Life could tell I had traveled all around. You wanna love me, girls, but I don't wanna know. You wanna love me, girls, but I don't wanna know. You wanna love me, girls, but I don't wanna know. You wanna love me, girls, but I don't wanna know. Well, I was born. I could tell I would travel all around. Was dead the other evening, love. I could tell I had traveled all around. You wanna love me, girls, but
Le titre, c'est Love Me Girls album, c'est Down to Dusk paru chez Drop In. Ils seront demain soir en concert au Point Éphémère à Paris et vendredi à Bercy.
La digestion du réel.
Vraiment, niveau culture, c'est dramatique. C'est archi pourri quasiment partout.
Merci à nos invités. Boris Schermatz, Manger, c'est jusqu'au 3 décembre au Théâtre de la Ville à Paris dans le cadre du Festival d'automne. Et je signale la reprise de Enfants du 18 au 23 décembre au Théâtre Nanterre à Mondier. David & Co, Layers, apparu sous le label Gnome. Et le spectacle Pierre et le Loup et le Jazz est programmé du 4 au 6 décembre à l'Astrada de Marciac, puis en tournée à travers toute la France. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, émission Maki Corse avec Eric Villard et Pierre Demarty. Et samedi,
l'année 2014,
la culture joue un rôle très particulier.
Vu par la culture.
Culture.
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire ?
Je m'appelle Claude François.
Viens ici !
On peut jamais vraiment être son lecteur et on est...
Qu'as-tu à me dire positif sur la France ?
Maintenant, je dois vivre avec.
Ça a la forme d'un cône sur un piédestal et puis cela a une forme qui rappelle aussi un sextoy.
Et oui, samedi, nous serons en public toute la journée à l'auditorium du musée d'Orsay pour le forum L'année vue par la culture. Ce sera une série de 5 tables rondes de 10h à 18h15 avec des invités Aurélien Bélanger, Frédéric Becbédé, Catherine Millet, Cédric Kahn, Romain Goupil, Elisabeth Rudinesco, Jean Noubli et toute l'équipe du rendez-vous. Le programme est sur le site de France Culture pour les inscriptions. Il y a des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture en SOS Fès, à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan et Tristan Gratt. Et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien ? Et oui, j'ai plein d'encre dans mes mains, Manu Farine. Voulez-vous les sur la figure ? Exactement. Tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors, bonne soirée à tous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.